Oui, effectivement, il y a ce sujet-là. On peut parler des criminels climatiques, entre autres, puis de cette espèce d'angoisse qu'on a de plus en plus dans notre société que nos enfants ne nous survivront pas parce que la planète va péter aux frettes en raison du réchauffement climatique. Il y a un auditeur qui nous écrit, Dominique, merci d'écrire. Il dit, vous autres, les médias, là, puis toi aussi, Richard, puis
ouais,
moi, puis
on
Serge
est tous
Allary,
là,
puis toi,
ouais.
OK? Vous autres, les médias, là, vous êtes le véhicule de cette panique qui s'accroît de plus en plus dans la population.
Bon, on n'a pas juste. Non, t'as peu. Nous, là, les médias, on est là pour prendre l'information et donner un portrait au public qui nous écoute, peu importe où ils sont, de la situation avec les deux ou trois côtés de chaque élément. Puis là, je reviens à ce qu'on se disait tantôt sur le développement des connaissances climatiques au niveau des gestes qu'on peut poser. Selon moi, Robert aussi, si on veut que les générations futures, embarquent dans ce processus-là d'amélioration, d'améliorer la planète, de faire attention à la planète, il y a beaucoup aussi d'éducation qui va partir de la base. On se comprend. Ça va partir aussi, puis là, je ne veux pas vous tirer de roche à personne, là, mais il va falloir que ça soit aussi mis dans les écoles pour être capable de, tu sais, il y a plusieurs années, on prenait des cours de géographie, on prenait des cours, ben ça aussi, c'est important. Ça doit faire partie de notre culture. Si ce n'est pas dans notre culture au quotidien, ça devient très difficile d'imbriquer ça dans la tête des gens et de dire, regarde, ça va marcher comme ça.
Un autre sujet que l'on propose à ceux qui nous écoutent maintenant, est-ce que le temps il est venu de légaliser la prostitution pour qu'on empêche des proxénètes épouvantables d'abuser du corps de jeunes filles, d'enfants? Dans certains cas, on parle de 12-13 ans. Il y a une commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs qui se penche là-dessus actuellement à Québec. Une fille, une jeune femme, peut rapporter à son pimp, à son proxénète, 300 000 piastres par année.
Puis un proxénète en gère jusqu'à 6. T'as vu, là? Il peut en gérer jusqu'à 6, là. Ça, c'est 1,8 million. Mais moi,
OK.
je vais au-delà de ça. Je trouve ça. Au Québec, là, quand tu dis tu regardes dans l'ensemble, au Québec, on est ciblé comme une plaque tournante. C'est pas une petite affaire, là.
Écoute,
au niveau canadien,
ce
là.
Qu'ils disent, là, c'est que ceux qui achètent les services sexuels des jeunes filles trouvent ça trippant parce que ils comprennent pas la langue. Ils trouvent ça exotique. Puis là, ils peuvent faire le cochonnerie comme ils veulent dans une autre langue, puis ils trouvent ça le fun parce que les petites filles ne les comprennent pas.
Moi, ce que je sache, puis...
Elles sont plus vulnérables, puis ils trippent de cette façon-là. C'est effet bandé. Je trouve ça dégueulasse.
Guide-moi, là, mais
oui.
À ce que je sache, là, avoir des relations sexuelles avec des enfants, c'est criminel. Puis même avec quelqu'un en bas de 18 ans. Non, vrai ou faux?
Regarde, Maria Mourani est là.
Oui.
Je la connais,
l'ancienne
députée.
Là, je la connais aussi.
Maria Mourani,
oui.
Qui est criminologue, est avec nous autres maintenant. On va prendre 2 minutes pour lui jaser
Bien sûr.
Du sujet en question. Bonjour, Maria.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, à la question, c'est criminel, hein? C'est criminel.
Bien, c'est ça le grand paradoxe. Et puis, c'est intéressant que vous l'amenez parce qu'un individu, là, un homme là, qui agresse un enfant 12, 13 ou plus jeune, bien, il va se faire arrêter puis il sera traité de pédophile et il aura une accusation d'agression sexuelle sur enfant, sur mineur. Quand c'est de la prostitution, c'est pas aussi clair. Et c'est ça, moi, qui m'enrage, en fait. C'est qu'on traite la prostitution juvénile comme si c'était un commerce, comme si c'était un travail. Alors, l'autre, c'est un client. Or, ce que moi, je constate sur le terrain, c'est que les prostitueurs, il faut arrêter de les appeler des clients. Les prostitueurs ou les abuseurs, ben, ce sont des pédophiles puis des ébéphiles qui aime, qui demande une marchandise qui est celle de l'enfance, qui est celle du mineur, de l'adolescent, et qui utilise ce créneau-là un peu pour surfer sur le système. Alors moi, c'est ce que je vais amener à la commission demain, c'est de dire qu'à partir du moment où on pogne ces gars-là, je dis ces gars-là parce que c'est majoritairement, malheureusement, des hommes, là, je suis désolée de le dire, ben, à partir du moment où on les pogne, on doit leur donner des charges, non seulement d'agression sexuelle, mais aussi d'achat des services sexuels.
Mais
et pas seulement d'achat.
Si on veut mettre ça là, simple, là, puis corrige-moi,
ouais.
Là, si on veut faire ça simple, dans le fond, c'est des pédophiles avec de l'argent dans leur poche.
Oui.
Parce que c'est ça, dans le fond.
Ils ont
les moyens... Alors, ils engagent, ils achètent des services sexuels par l'intermédiaire, bien sûr, des proxénètes et mm-hmm. ils ont des relations sexuelles avec des enfants. Je m'excuse, quelqu'un qui a des relations sexuelles avec une personne de 12 ans, dans ma tête à moi, là, à 12 ans, tu es encore, t'es encore un enfant.
Moi, c'est oui, même.
Et tu enlèves, ou si je ne suis pas psychologue, là, ni psychiatre, mais mm-hmm. selon moi, tu enlèves ce qu'il y a de plus précieux dans la tête ou dans l'avenir d'un enfant,
tu
toute
peux,
cette honte, cette crainte.
À Maria, la question se pose,
c'est
est-ce que tu scrapes ces enfants-là?
Pardon, j'ai pas compris.
Tu sais, ces enfants-là, tu sais, on va les punir d'un crime. Celui qui achète ces services sexuels-là, on devrait les accuser d'avoir scrappé la vie de ces enfants-là.
Tout à fait, parce que non seulement c'est facile de s'attaquer aux proxénètes. C'est ça que moi, je constate. C'est que c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à des gangs, de s'attaquer à des proxénètes là, qui recrutent des petites filles de 12-13 ans. Mais quand c'est comme si le prostitueur, lui, il n'avait pas cette impunité-là, lui, de payer pour ce service-là. Parce qu'au fond, il faut être très, très clair. Il n'y aurait pas d'enfants sur le marché s'il n'y avait pas des demandeurs, s'il n'y avait pas des client abuseur qui veut cette marchandise-là.
Pierre Mailloux disait ce matin, le problème avec celui-là, si tu le prends, tu l'envoies en prison pendant 3-4 ans, il va ressortir de là avec le même désir, les mêmes pulsions sexuelles. Alors, est-ce qu'il va falloir leur couper les couilles?
En fait, regardez, il y a deux catégories d'hommes qui consomment des jeunes filles. Il y a ceux qui ont une perversion, qui sont des pédophiles ou des ébéphiles, comme je dis, puis il y a ceux qui ont des fantasmes sur des mineurs, puis ils vont dire « Ouais, mais je savais pas qu'elle avait pas 18 ans. » Puis quand ils vont demander du sexe à des femmes adultes, ils vont leur demander de ressembler à des petites filles. OK? Donc, il y a comme deux catégories où parfois la police a du mal à cerner les affaires. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en tout temps, quel que soit là, le profil du prostitueur, il faut porter des accusations. Maintenant, lorsqu'on parle de perversion, lorsqu'on parle de pédophilie, d'ébéphilie, moi, je vais vous dire mon opinion. Ça fait, j'ai travaillé pendant longtemps avec les pédophiles. Et il y a une forme de criminalité qu'on ne peut absolument jamais réhabiliter. Puis ceux qui vous disent là, que ouais, on fait des études, des recherches qui montrent que la récidive diminue après le traitement, ben, ils ne vous disent pas que la récidive, par exemple, pour eux, ça veut dire que le gars, il sodomisait la petite fille, puis là, maintenant, il ne la sodomise plus, oh, il fait juste se faire une fellation. Ça, c'est un succès, OK? Donc, pour moi, ça, ce n'est pas un succès. Dans les cas de pédophilie et aussi des ébéphiles, il n'y a aucune possibilité de guérir cette affaire-là. C'est comme si moi, je vous dis... Vous aimez avoir des relations sexuelles, je vous donne un exemple comme ça, là, avec des femmes rousses de telle pointure, en tout cas, c'est votre type de femme, c'est ça qui vous fait bander. Je m'excuse, là, eux autres, c'est les enfants qui les font bander.
OK,
on ne peut pas le changer, ça.
Deux petites questions rapides, si vous le voulez bien. Première question, si la prostitution était légalisée au Canada, est-ce que ceci amènerait une baisse de la prostitution juvénile?
Pas du tout.
Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la clientèle visée, c'est les jeunes.
C'est ça. Puis en plus de ça, ce qu'on a constaté, je vais vous donner un exemple très simple. Dans les pays qui ont légalisé la prostitution ou bien qui l'ont normalisée, c'est-à-dire qui l'ont réglementée avec des zones,
encadré,
oui,
c'est ça.
Ouais. Bon, ces pays-là, je vous donne l'exemple, au Canada, les recherches démontrent qu'il y aurait à peu près 11 % de consommateurs de prostitution. Dans ces pays-là, on parle de 60 à 80 %. À partir du moment où la prostitution est légale, elle est considérée comme normale. Elle est banalisée, elle devient un travail. Ça devient normal d'y aller. Donc les hommes, pour eux, c'est comme si, je vous disais, ils s'en vont, je sais pas moi, au cinéma. Ils s'en vont au cinéma. Et ce qu'on constate aussi, c'est que dans ces pays-là, la traite de personnes est exponentielle parce que, comment dire, ils vont rechercher des mineurs. Donc, dans ces pays-là, les mineurs sont normalement pas légaux, mais ils sont légale. C'est-à-dire, indirectement, ils sont dans le marché. Donc, on voit une montée de la prostitution juvénile aussi qui suit la courbe de la traite de manière exponentielle. Et au fond, c'est comme si nous avons normalisé une violence, tout simplement. C'est, ce qui était violent ne l'est plus.
Je comprends bien. Autre question maintenant. Vous êtes d'accord avec moi, vous avez siégé d'ailleurs à Ottawa pour le Bloc québécois, vous êtes d'accord avec moi que les gouvernements, tant au fédéral qu'au provincial, interviennent souvent de fois via la publicité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les médias traditionnels. Bon, exemple, ils vont faire de la publicité pour l'alcool au volant, que c'est criminel. On voit ça, les barrages routiers, les gens se font arrêter avec des menottes et tout ça. Ils vont faire également de la publicité pour autre chose. La cigarette est un autre exemple, parce qu'on va dire aux gens, bien, fumer, c'est le cancer, puis ainsi de suite, puis la santé. Comment se fait-il qu'on voit jamais de campagne publicitaire à la télé, ailleurs, de sensibilisation qui ne disent pas, exemple, acheter des services sexuels d'un adolescent ou d'une adolescente, c'est criminel. Comment ça se fait qu'on ne voit jamais ça et qu'on a un fléau qui est si grand partout au Canada?
Ben, vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs un des points que je vais amener demain à la commission en leur demandant de mettre des campagnes de sensibilisation nationales, là. Comme on le fait pour l'alcool au volant, comme on l'a fait pour la violence conjugale, comme on le fait pour le cannabis, qui cible non seulement la prostitution, mais aussi l'exploitation, mais aussi la pornographie et l'hypersexualisation, parce que tous ces éléments-là sont tous liés. Donc, il faut que ces messages-là s'adressent à monsieur, madame, tout le monde, pour les sensibiliser, pour aider leurs jeunes, etc., mais aussi pour sensibiliser les prostitueurs qui, comme je vous dis, sont une minorité et la majorité des hommes, en étant sensibilisés, vont eux-mêmes sensibiliser leurs garçons. Donc, c'est comme une réaction en chaîne. Puis, moi, je pense que l'une des recommandations de la commission devrait être de mettre des campagnes de sensibilisation nationale à l'échelle du Québec, là, comme on le fait pour le cannabis, puis le textage et compagnie, là.
En terminant, ce qui me concerne, dites-moi une chose. Depuis l'arrivée des médias sociaux, depuis l'arrivée du web, quelle a été la croissance, justement, de tout ce qu'on voit et de directement et indirectement sur la prostitution juvénile?
Bon, alors, c'est extrêmement difficile d'évaluer, mais on sait qu'il y a eu une explosion. Je vous donne un exemple. On évaluait en 1997, là, à l'échelle, quand l'Internet commençait à sortir, on évaluait qu'il y avait 22 000 sites de pornographie juvénile. C'est passé à 4,2 millions en 2006. De 1997 à 2006, c'est passé à 4,2 millions. Ça, c'est ce qu'on peut identifier. Je ne vous parle pas du dark web. Donc, la prostitution juvénile, elle est vendue sur Internet de manière... c'est tellement ouvert là, que c'est tellement facile. Là. Ça, c'est un. Elle est vendue. Deuxièmement, les jeunes sont recrutés via les médias sociaux. Les proxénètes ont plusieurs avatars, plusieurs profils, où ils se font passer soit pour des filles, soit des beaux petits jeunes avec des liasses de billets. En tout cas, ça rentre dans leur panoplie de, si vous voulez, la mise en scène là, pour hameçonner les filles. Donc, Internet est devenu vraiment le nouvel Eldorado hein, de ces proxénètes-là, non seulement pour recruter, mais pour vendre aussi.
Merci, Maria.
Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.
On va suivre avec grand intérêt, Maria, ta comparution devant cette commission. À bientôt.
À bientôt, merci.
Merci d'avoir participé.
Maria Mourani, voilà.
C'est clair. C'est
criminologue.
C'est épouvantable. Quand tu écoutes ça dans une société comme on est, moi, je trouve ça...
Mais elle pense qu'il ne faut pas légaliser, il faut continuer comme on est là. Regarde, c'est parce que ça n'a rien réglé. Plus vieux métier du monde, on est encore en train de s'en parler. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir dire, pas être hypocrite, là, s'il y a des femmes ou des hommes qui veulent vendre des services sexuels, qui puissent être capables de les vendre, on encadre ça. Sauf que, d'un autre côté, les proxénètes, les pimps, qui vont enlever nos filles avec toutes sortes de subterfuges, entre autres en leur promettant des voyages dans le sud, puis des beaux vêtements, puis de la dope, puis de l'alcool, ben ceux-là, on les enferme, puis on les enferme pour de bon.
Puis moi, je ne veux pas tirer la pierre aux parents, parce que je pense que, tu sais, on sait, on en voit des histoires de mères de famille qui font des pieds et des mains pour être capables, justement, d'envoyer leur enfant dans des centres jeunesse pour essayer de les encadrer davantage. Mais l'enfant de 12 ans, il y a quelqu'un aussi en arrière de lui, là.